La WWDC, c'est évidemment le grand rendez-vous annuel des développeurs Apple. Mais pour les utilisateurs lambda et pour le grand public, c'est aussi un moment important à suivre. Apple en profite pour tracer les grandes lignes de ce qui nous attend, pour les systèmes d'exploitation évidemment, mais il arrive souvent que de nouveaux produits soient annoncés. Alors, vous pensez bien que nous allons évidemment suivre l'édition 2022 de la WWDC de très très près, et dans cet épisode de Kernel Panic, on va vous expliquer pourquoi il faudra être très attentif car il pourrait bien y avoir pas mal de nouveautés. Il y a la transition Apple Silicon qui tire sur sa fin, et aussi pas mal de surprises possibles pour iOS et macOS. Après tout, ça a été assez calme sur le front des rumeurs ces derniers mois, alors on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Bonjour à tous, bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du club IGN. On va parler aujourd'hui de la WWDC 2022, alors que la conférence mondiale des développeurs d'Apple commence dans un mois. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? À quoi faut-il se préparer? Après Catalina, Big Sur ou encore Monterey, quel sera le petit nom de macOS 13? Craig Federighi aura-t-il une nouvelle coiffure? Que de suspense! Pour faire le point sur cet événement qui va nous occuper bien au-delà du mois de juin, j'ai demandé à Florent Morin de nous donner son point de vue de développeur et de pro de la technique. Salut Florent.
Salut Mickaël.
J'ai également avec moi Stéphane Moussy, notre spécialiste des petits trucs, mais qui garde toujours un œil sur les grosses annonces. Salut Stéphane.
Salut Mickaël, très bonne présentation. Ouais.
Alors avant de commencer, je voulais simplement vous demander ce que vous attendez le plus d'Apple cette année pour la WWDC. Une chose que vous aimeriez bien voir présentée ou annoncée, Florent?
En fait, c'est carrément les lunettes de réalité augmentée, au moins un kit pour les développeurs, pour qu'on puisse s'amuser, parce que c'est vraiment le truc qui on est tous chaud bouillant. Apple arrête pas de nous mettre un peu, pas la pression, mais de teaser un peu le truc, donc ouais, vraiment on a envie. Quoi.
Ouais. Stéphane?
Je crois que tu connais ma réponse, Mickaël. Moi, c'est un truc un peu plus terre-à-terre. Ce serait du multi-utilisateur sur iPad.
Tous les ans, on y a droit. Tous les ans.
Parce que c'est pas possible de partager un iPad entre plusieurs utilisateurs à la maison. Enfin, c'est possible, mais c'est toujours embêtant pour utiliser un mot correct. Non, sinon, je suis assez impatient de voir du matériel. Peut-être le nouveau MacBook Air, même si c'est pas sûr, mais le nouveau MacBook Air me fait bien envie, enfin d'après les rumeurs qui se dessinent. Et puis pour le reste, on verra.
Eh bien, merci à vous deux pour ces réponses. On va espérer qu'Apple réponde à ces espoirs un peu foufou. On va débuter par un petit exercice amusant, le décryptage du visuel de la WWDC. Cette année, c'est le logo de Swift dans un cercle au contour arc-en-ciel, le tout plongé dans le noir. Alors Florent, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce que toi, ce visuel, ça t'évoque forcément Swift, et notamment la version 5.7.
Et oui, et en fait, moi je pense que la version 5.7 va nous amener vers la version 6 qui va nous en mettre plein la vue et on va en voir de toutes les couleurs. Et je pense que c'est l'origine du logo de cet émerveillement des développeurs devant Swift qui annonce du lourd, quoi.
On va revenir sur les nouveautés attendues pour les développeurs, mais je vais me tourner d'abord vers toi, Stéphane, avec ce fameux visuel. À quoi ça te fait penser comme ça? J'ai lu quelque part que ça annonçait le casque de réalité virtuelle, mais est-ce qu'on n'essaye pas d'y projeter nos fantasmes?
Oui, je pense que l'analyse qui consisterait à voir dans le logo un casque de réalité virtuelle, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Ce que je vois surtout, c'est le logo Swift. Et donc vraiment l'emphase mise sur le code, sur le développeur. Il y a parfois des indices dans les visuels d'Apple, j'ai fait un petit tour avant l'émission, mais c'est plus pour les special events que pour les WWDC, les indices dans les visuels. Par exemple, il y avait, je me souviens, pour c'était le mode portrait de l'iPhone 7 Plus, il avait été un peu teasé avec un visuel un peu flou, et puis il y avait aussi... quelques années, une pomme dessinée au crayon, c'était pour la compatibilité de l'Apple Pencil avec l'iPad entrée de gamme. Donc, faut pas non plus surinterpréter les visuels. Apple église les indices des fois, mais c'est pas toujours le cas non plus.
Alors, Florent, je reviens vers toi pour parler plus en détail d'une nouveauté en particulier de Swift 5.7. Enfin, c'est pas réellement une nouveauté puisqu'il s'agit de Concurrency, qui avait été présenté en 2021, je crois. Alors, c'est un concept un peu nébuleux pour monsieur tout le monde, mais c'est très important pour les développeurs et au bout du compte, c'est aussi quelque chose qui va compter pour tous les utilisateurs.
Ouais, carrément. En fait, pour tout le monde ce qu'est Swift Concurrency. En fait, quand on exécute des tâches sur un iPhone, sur un iPad ou sur un Mac, Généralement, on aime bien que ces tâches s'exécutent en parallèle pour que, côté utilisateur, il y ait vraiment une impression de rapidité, du moins que ce soit rapide à l'usage. Et plus il y a de cœurs, plus c'est rapide. Sauf que la gestion des cœurs, c'est compliqué à gérer côté code. Et y a même, même si on fait ça à la perfection côté code, il y a encore des limites techniques hein, que rencontrent les supercalculateurs, par exemple. C'est l'exemple que j'aime bien donner. Si tu prends un supercalculateur comme celui de Météo France, qui fait du coup de l'intelligence artificielle à tout va, tu vas prendre une génération, tu prends la génération suivante, tu auras peut-être 4 fois plus de cœurs, mais en fait, tu vas avoir un gain de performance soit fois 1,3. Ouais. Parce qu'au niveau logiciel, on ne sait pas très bien gérer la concurrence depuis toujours. Et la première étape qu'a fait Apple en 2021, ça a déjà été de simplifier la gestion pour les développeurs des tâches parallèles, comme ça, avec Swift Concurrency, et c'est plutôt bien réussi. En plus, c'est compatible avec iOS 13 et l'équivalent côté Mac. Et en fait, le deuxième pas qui me reste sauté Apple, parce que c'est vraiment ce qui a été annoncé lors d'un début du DC 21, c'est d'alléger au maximum le processus de création de nouvelles tâches. Ouais. Ce qui fait que, techniquement, ça coûterait pas plus cher que de créer une fonction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des millisecondes de gagner. Et donc, ce phénomène d'étouffement qu'on a aujourd'hui serait aboli, en fait. D'accord. Et ça, ce serait vraiment une révolution dans le domaine de l'informatique au sens large. Ouais. Parce que c'est quelque chose que personne n'a réussi à faire jusqu'ici. Ouais.
Et donc, ça veut dire que les tâches vont aller plus vite sur les appareils iOS et les derniers appareils ou aussi pour les modèles
tous,
plus anciens.
Tous.
Ouais.
Et peut-être même, j'ai envie de dire tous, et surtout pour les appareils plus anciens dans une certaine mesure, parce qu'il y a deux aspects. Il y a cet aspect de pouvoir créer plus vite des tâches et l'aspect aussi d'un phénomène qui est récurrent quand on gère plusieurs tâches en parallèle. Qui s'appelle le thread explosion. Donc en fait, c'est des tâches qui explosent tout simplement. Pourquoi ? Parce que t'as deux cœurs et on demande de faire 45 tâches. Et ben au bout d'un moment, la machine elle réussit plus à suivre et tout pète. Ouais. Et tandis que là, en fait, il y aura un système d'orchestration qui sera optimal pour utiliser exactement le bon nombre de cœurs. Et puis ben le reste sera en attente, mais ça coûtera pas en ressources et ce sera bien géré.
Stéphane, en dehors de Swift, il y aura aussi des nouveautés pour iOS, macOS et les autres systèmes d'exploitation d'Apple. Pour le coup, on est bien embêté parce que on sait pas grand-chose finalement. C'est tout juste si on a eu droit à quelques rumeurs sur iOS 16.
Oui, il y a eu assez peu de rumeurs pour le moment. Alors ça peut vouloir dire trois choses. Soit il n'y a pas beaucoup de nouveautés,
oui.
Soit Apple arrive à empêcher les fuites, soit Mark Gurman de Bloomberg en garde encore sous le coude. Moi, je penche pour la troisième option. Parce que généralement, quelques semaines avant l'événement, il publie ses articles où il fait le point sur les nouveautés. Mais bon, on sait quand même, on a déjà quand même quelques rumeurs de connues. Pour faire le point sur iOS 16, il y aurait des nouveautés significatives pour les notifications et le mode de concentration, donc celui qui a remplacé le mode ne pas déranger. On ne sait pas exactement encore ce que ça sera comme nouveauté. Personnellement, moi, le mode de concentration, je le trouve assez compliqué comme ça, mais peut-être qu'il y aura des simplifications, qui sait. Sur WatchOS 9, il y aurait des améliorations majeures pour le suivi de la santé. Et puis sur iPadOS 16, il y aurait du nouveau pour l'interface multitâche. Ça, c'est quelque chose qui est très attendu par les utilisateurs avancés d'iPad. Là aussi, c'est pas très clair qu'est-ce qu'on aura comme nouveauté concrètement. On a vu passer, par exemple, une image montrant des fenêtres flottantes.
Ouais.
Mark Gurman, lui, a suggéré un mode pro, c'est-à-dire que quand tu branches un clavier externe à l'iPad, iPadOS changerait d'interface pour une interface un peu plus proche de macOS. Mais ça, pour le coup, c'est pas des bruits de couloir qu'il a entendus, c'est quelque chose qu'il imagine. Donc il faut bien distinguer les deux entre voilà, bruit de couloir venant d'Apple et puis, et puis supputation, si on peut dire. Pour macOS, pas de rumeur, mais on a trouvé nous-mêmes quelques évolutions techniques qui pourraient se concrétiser à la WWDC, comme par exemple la prise en charge de WebRTC dans les apps Catalyst. Alors c'est pointu. Et puis la prise en charge aussi des images AVIF par Safari. AVIF, c'est le format d'image basé sur le codec libre AV1. Et en fait, ça, ces petites infos techniques-là, elles sont librement accessibles, si on peut dire, parce qu'elles figurent dans WebKit, qui est le moteur de rendu de Safari, qui est open source. Et donc, on voit les développeurs travailler à ciel ouvert, les développeurs d'Apple travaillent à ciel ouvert sur ce moteur de rendu. Et ouais. Puis, parfois, on croise quelques petites infos nouvelles. Alors, ils essayent de masquer, c'est amusant, ils essayent de masquer les évolutions à venir pour les prochains systèmes. Ouais. Mais si tu analyses des fois le code source, tu vois une petite mention de iOS 16 ouais. ou macOS 12. Donc, en analysant ça, on peut déceler quelques nouveautés ouais. à l'avance.
Florent, il y a quelque chose qui t'intéresse plus particulièrement dans ces rumeurs, les nouvelles notifications ou les fenêtres flottantes sur iPadOS ?
Ouais, les fenêtres flottantes, ça donnerait vraiment une dimension pro à l'iPad Pro ouais. pour le coup. Et là, ce serait vraiment sympa. Je pense qu'on peut aller plus loin. Après, je peux comprendre aussi la prudence d'Apple dans ce domaine-là parce que c'est comme pour tout. Une fois qu'on commence à offrir quelque chose en plus, le retirer après, c'est toujours délicat. Donc, il vaut mieux y aller à tâtons. Et ouais, après, je pense qu'Apple a pas mal de chantiers déjà en cours. Ouais. Il y a pas mal de choses qui ont été offertes, qui sont améliorées. Donc voilà.
Et surtout pour les fenêtres flottantes aussi, le défi pour Apple, c'est de proposer quelque chose de plus avancé pour les utilisateurs justement qui veulent du multitâche, un peu comme sur macOS, mais aussi garder la simplicité de l'iPad. Il faut vraiment ménager la chèvre et le chou pour. Pour réussir ça. Quoi.
Ouais, c'est un équilibre délicat, effectivement, mais en même temps, les iPads, maintenant, avec les puces M1, ils sont aussi puissants que des Macs. Donc,
C'est ça, et c'est frustrant d'avoir des iPads aussi puissants que les Macs et ne pas pouvoir les exploiter ouais. à fond. Par exemple, l'iPad Pro a un port Thunderbolt, mais bon, si tu le branches un dock Thunderbolt, en réalité, tu ne peux pas vraiment tirer parti de toutes les possibilités du dock. Tu ne peux pas choisir la sortie audio, l'entrée audio, ouais. enfin, il y avait encore beaucoup ouais. à faire. Quoi.
Stéphane, est-ce que l'absence ou la quasi-absence de rumeurs, ça laisse présager de gros changements pour les OS ? Ou est-ce que ce sera, on va dire, une WWDC de transition ?
Bah, ça pourrait être une WWDC de transition, dans le sens où, d'après des rumeurs, iOS 16 pourrait contenir des nouveautés destinées au casque de réalité ouais. augmentée, pardon, qui n'est pas pour ouais. tout de suite. Donc peut-être qu'Apple va mettre en place des choses, on va dire, de manière assez discrète. En fait, ça, elle le fait un peu chaque année. Chaque année, il y a des sessions, donc des présentations techniques détaillées, des nouveautés, qui ont l'air assez anodines. Mmh. Et puis tu te rends compte quelques mois plus tard qu'avec un nouvel appareil, ah bah, la nouveauté, en fait, elle est super importante. Mmh. C'était ce qui s'était produit, je m'en souviens bien, à la WWDC 2017. Où Apple avait fait une session, c'était sur le concept de Safe Area, ouais. Ouais. Donc, qui consiste en gros à... Elle prévenait les développeurs de ne pas coller le texte au bord de l'écran, pour vraiment simplifier. Et puis, en fait, on s'était rendu compte quelques mois plus tard que c'était super important pour l'iPhone ouais. 10, parce que il fallait pas que le contenu disparaisse derrière l'encoche ou la barre d'accueil. Donc, peut-être qu'on aura des sessions comme ça anodines, et puis on se rendra compte dans quelques mois ou dans un an que en fait elles sont très importantes pour le casque.
Florent, pour cette WWDC, les grosses nouveautés du point de vue des utilisateurs, elles seront peut-être justement à aller chercher du côté de la réalité augmentée. Alors Apple ne devrait pas ouais. présenter son fameux casque, je suis désolé pour toi, mais on pourrait avoir droit à de nouvelles pièces du puzzle.
Ouais, bah en fait déjà on parlait de l'iPad Pro qui a une puissance phénoménale sous-exploitée. Et on se rappelle, l'an dernier, on avait fait un petit exercice avec un dinosaure qu'on avait scanné en 3D oui. et qu'on avait repoussé en réalité augmentée ensuite. Mmh. Et bien en fait, le problème, c'est que ça marchait que sur les Mac. Or, l'iPad a toute la puissance pour le faire et ça permettrait de tout faire sur un seul appareil, du scan à la représentation 3D et ainsi de suite. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'il y aura une vraie opportunité de compléter la suite logicielle à ce niveau-là. Mmh. Apple a aussi de la marge au niveau de la combinaison entre machine learning et réalité augmentée. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait, mais c'est un peu délicat, mais il y a vraiment un potentiel pour vraiment bien exploiter le machine learning à 100% dans l'aspect réalité augmentée. Par exemple, alors pour détecter des éléments, mais les détecter dynamiquement, en fait. Par exemple, je reconnais un tag quelque part, c'est l'utilisateur qui le scanne, et ensuite c'est utilisé. Sans que ce soit une usine à gaz à monter, et c'est des choses qui pourraient être faites pour familiariser avec la réalité augmentée, sachant que de toute façon, on reste quand même, et c'est un peu le truc frustrant, on reste très limité par rapport au matériel, parce que à l'usage aujourd'hui, la réalité augmentée sur iPhone, c'est drôle, mais tu vas pas rester 2 heures le bras en l'air, quoi. Ouais. C'est mort. Ouais. Et par contre, on a un super outil au niveau logiciel et on a vraiment envie d'exploiter ça à fond. Et voilà, donc ouais, peut-être qu'il y aura des dernières pièces de la réalité augmentée côté logiciel là-dessus. Et j'ai quand même envie de croire dans un casque, au moins un kit de développement. Ouais. Pour être prêt.
Alors justement, bah, j'ouvre une parenthèse avec Stéphane sur le sujet. Alors, quand est-ce qu'il va arriver ce fichu casque de réalité augmentée du coup ? Parce qu'on avait pas mal parlé d'une présentation ou même d'un lancement pour cette année, mais là, ça a l'air mort.
Ouais, c'est un serpent de mer. Il est annoncé, il est repoussé d'année en année. C'est 2020, puis 2021, puis 2022. Ouais. Là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de... Marc Gurman, donc le journaliste de Bloomberg, et puis Meng Shui Kuo, l'analyste... Ils ont tous les deux souvent des très bonnes infos. Ils avaient parlé pendant un moment de 2022 et puis finalement ils sont moins sûrs. Ça serait peut-être au mieux une présentation fin de l'année et puis une commercialisation l'année prochaine. J'y crois pas trop pour la présentation cette année. Après il y a rien qui presse en fait. Apple dépend pas de ce produit pour se relancer ou je sais pas quoi, donc autant qu'ils prennent le temps de sortir un produit carré dès le départ, c'est vrai qu'il faudra très certainement le présenter à l'avance, quelques mois avant sa commercialisation pour que les développeurs puissent adapter, créer des applications pour lui. Mais cette année, ça me paraît encore compliqué. Après, j'espère me tromper, tant mieux si on a une bonne surprise à la WWDC avec un super casque, mais... ça me paraît short.
Florent, c'est trop lent pour toi ?
C'est pas, je dirais pas que c'est lent, parce que encore une fois, c'est vrai qu'Apple a tendance à sortir ses produits après tout le monde, mais eux, ils sortent pas des prototypes sur le marché, quoi. Si tu prends aujourd'hui le Oculus ou quoi, je pense que Facebook en a rien à carrer que les gens sont malades au bout de 2 heures, tandis qu'Apple laisserait jamais passer ce genre de choses. Et c'est vrai que autant qu'ils prennent le temps, et je pense honnêtement qu'ils vont nous préparer au niveau soft. Je réfléchissais évidemment en tant que développeur comment Apple pourrait imaginer les choses. On peut très bien imaginer avoir une adaptation automatique des applications qui permettrait d'utiliser un peu la technologie du deuxième écran et que le deuxième écran soit en fait la réalité augmentée et qu'Apple nous dise bah tiens, préparez-vous à être super au top dès aujourd'hui sur un deuxième écran, etc. Pourquoi ? Ben vous verrez bien, et qu'en fait certains se préparent, suivent les conseils d'Apple, puis du jour où ça arrive, ah ben c'est cool, on peut directement porter notre application sous la nouvelle plateforme sans faire de développement supplémentaire, et voilà quoi. Donc généralement c'est comme ça qu'Apple fonctionne. Il suffit de leur faire confiance et de suivre les conseils, et puis ça passe quoi. En fait, généralement on a des bonnes surprises.
Alors puisqu'on est à parler de matos, restons-y encore un moment parce que Apple pourrait profiter du keynote de la WWDC pour lancer un ou deux nouveaux Mac. Alors là encore c'est un peu obscur, mais on parle pas mal du MacBook Air évidemment, d'un MacBook Pro 13 pouces, voire du Mac Mini et même de la puce M2, Stéphane.
Oui, il y a beaucoup de nouveaux Mac en préparation, c'est logique. Je ne vais pas faire la liste entière, mais en gros, il y a des versions M2 pour toutes les machines. Ça fait quand même un paquet de machines, parce que donc il y aurait 4 portables, donc le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces qui ne veut pas mourir, et le MacBook Pro 14 pouces et le 16 pouces, et puis 4 machines du bureau. Ouais. Le plus probable en juin, ça serait peut-être le MacBook Air M2, enfin, il y a des indices un peu contradictoires à son sujet, donc c'est pas non plus gagné. Sinon, il y a le Mac Mini qui se cache dans qui a été entreaperçu une nouvelle référence dans le système du Studio Display. Ces références internes qui sont trouvées dans les systèmes, c'est toujours un bon indice. Et puis, on peut imaginer ou espérer un lever de rideau sur le Mac Pro, le nouveau Mac Pro Apple Silicone. Pas forcément une commercialisation dans la foulée, mais peut-être une présentation pour montrer aux développeurs qu'est-ce que pourrait être le futur Mac de bureau ultime, même si je suis pas sûr qu'il s'adresse vraiment à eux. Le Mac Mini et le Mac Studio font déjà un super boulot, je pense, pour les, pour les développeurs.
De ton côté, Florent, est-ce qu'il y a une machine que tu attends tout particulièrement, à moins que tu sois très heureux du Mac Studio, justement?
Ben, en tant que développeur, j'utilise un M1 Max, et c'est vrai que c'est une belle bombe, hein, y a pas à dire. En fait, par contre, là où je suis curieux, c'est par rapport au, ce serait pas tant sur la puissance des puces, mais sur la puissance du réseau, où j'attends une vraie machine côté Apple. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec Swift Concurrency, Apple prépare du calcul distribué en toute transparence, en fait, entre les appareils. Et si derrière, ils avaient un réseau qui une cadence de dingue, c'est-à-dire que tu auras une seule machine, avec plusieurs Mac, tu ferais un énorme Mac, et côté soft, t'as toute ta suite logicielle qui est prête. Et là, ça pourrait faire terriblement mal à la concurrence dans le domaine des pros. Parce que du coup, tu auras du calcul distribué vraiment aux petits oignons, quoi.
Tu veux dire un réseau sans fil?
Ouais, ou même en réseau sans fil ou réseau filaire, après, peu importe, mais en tout cas avec un minimum de latence pour que l'information soit quasiment aussi rapide entre la mémoire sur la puce qu'à l'extérieur, quoi. Et je pense qu'Apple a aujourd'hui la capacité à réduire cette latence et au niveau matériel et logiciel. Et donc, comme ça, on aura vraiment du calcul distribué qui serait très très performant, quoi.
Stéphane, est-ce que Tim Cook pourrait dire quelque chose des petits soucis de ces derniers mois qui viennent de l'Union européenne? Alors, je pense évidemment aux régulations du DMA qui va ouvrir l'App Store aux services de paiement tiers et forcer le side-loading sur l'iPhone.
Non, la WWDC, c'est pas trop le moment pour parler des sujets politiques qui fâchent. Donc je m'attends pas à ce que Tim Cook, comme il le fait quand il est invité à des conférences, fasse un discours contre les régulateurs européens. Par contre, je m'attends vraiment à ce que, comme l'année dernière, on a un petit segment durant le keynote inaugural, durant lequel Apple rappelle combien l'App Store est super pour les développeurs. Et puis aussi, ça serait le moment d'annoncer quelques nouveautés pour la boutique. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il y aura un message plutôt qui sera passé de manière plus subtile, rappelant aux développeurs comme quoi l'App Store est une des fondations de l'iPhone et combien il est vraiment super pour eux et qu'il ne faut pas trop aller voir ailleurs, quoi.
Je sais, Florent, que tu fais partie des gens qui ne sont pas très chauds sur l'ouverture forcée de l'App Store. Est-ce que tu crois que Tim Cook va nous gratifier de son discours sur la sécurité et la confidentialité pendant le keynote, comme le pense Stéphane?
Je pense plutôt que Tim Cook va plutôt interviewer des développeurs, hein, ce qui serait malin. C'est-à-dire que ce soit eux qui témoignent de leur réussite sur l'App Store, parce que c'est vrai que avant l'App Store, on a pas mal galéré, et si tu prends quelques anciens de l'App Store, ben c'est bon, quoi, t'auras un témoignage assez solide. Après, je pense aussi qu'il va dire bon, ben il va rappeler qu'il y a eu des efforts qui ont été faits sur comment ça s'appelle, sur les apps notariées, ce genre de choses, puis dire ben tiens, là on a peut-être quelque chose, et le passer en bêta tout de suite, quoi. Par rapport à la sécurité, en essayant d'être rassurant, en disant malgré tout on essaye de. Ouais. Et puis à mon avis, on aura un iOS 16 qui mettra des alertes partout si on veut sideloader. Ouais. Voilà, et ce sera l'enfer pour installer quelque chose de sideloader, ce qui n'empêchera pas les gens de faire. Mais bon, au moins la démarche sera là, et peut-être aussi une ouverture de l'App Store. Je me posais cette question parce que une ouverture dans le sens où un détachement de certaines fonctionnalités de l'App Store, parce que on a vu que maintenant on peut faire des applications qui ne sont pas référencées sur l'App Store, et c'est peut-être aussi côté Apple un petit essai pour dire cette partie distribution sécurisée, on peut peut-être essayer d'assortir et de la détacher de la dimension business. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose là-dessus à voir. Mais je suis curieux en tout cas de voir ce qui va arriver.
Alors, la WWDC, ce n'est pas qu'un keynote avec de nouveaux produits, c'est aussi toute une semaine d'ateliers et d'infos pour les développeurs. Et comme en 2020 et 2021, tout ça, ce sera virtuel et accessible à tous. Florent, comment ça se passe pour toi qui es développeur? Donc, tu vas suivre toutes ces nouveautés de près, j'imagine. Ça va être une semaine bien chargée pour toi.
Ouais. En fait, évidemment, tu as le keynote où là, tu commences à prendre des notes. Généralement, tu as une petite pause pour tout installer à toute bombe et essayer de manger un bout. Et après...
C'est pareil pour le journaliste.
Et après, c'est le Platform State of the Union qui va nous permettre d'avoir un aperçu global des principales nouveautés pour les développeurs. Et là, c'est un peu la liste au Père Noël, on va dire. Ouais. Et on va pouvoir commencer à préparer des sessions avec une information assez concrète. Et après, c'est tous les jours, ça va être... se mettre dans les sessions pour appréhender les sujets. Mmh. Après, très rapidement, prendre des rendez-vous avec les ingénieurs, designers de chez Apple, parce que c'est un peu le moment ou jamais. Mmh. Et après, apprendre, dormir un peu quand même, et recommencer comme ça pendant 5 jours. Ouais. Et généralement, après, on a des bonnes bases pour l'été, quoi, on va dire. On sait au moins où on va, et ça permet d'avoir une bonne trajectoire. Et avec des informations qui sont prises à la source. Et c'est vraiment la richesse de l'événement, c'est que généralement, ceux qui ont conçu les fonctionnalités, on les a en face de nous. Donc, il n'y a aucun intermédiaire, quoi. Donc, c'est vraiment bien et c'est une information au top, quoi. Au top. Ouais.
Est-ce que dès le keynote, ça mouline dans ta tête et tu te dis ah ça je verrai bien ça dans une de mes futures applications, dans une future mise à jour de mes applications?
Ouais, vraiment, tu te dis tiens là, est-ce que ça répond à une problématique à laquelle j'ai jamais su répondre jusqu'ici? Ouais. Voilà, donc tu fais un peu le tour dans ta tête des applications, celles des clients, etc. Et tu te dis bah oui, peut-être que là on pourrait l'exploiter pour répondre à un besoin, quoi. Et c'est vrai que c'est tout de suite on commence à s'imaginer. Après on est confronté à la réalité où Apple dit oui mais ça on l'a pas ouvert ou ça on l'a ouvert. Bon après c'est des choses qui s'acceptent comme il faut. Et après enjoy, quoi. J'ai envie de dire faut y aller. Mais c'est vrai que dès le début faut tout de suite s'immerger dans le sujet pour pouvoir se projeter. Et c'est ce qui est bien avec la keynote, c'est qu'en fait on a tout de suite une projection en situation avec des cas pour les utilisateurs. Mmh. Et donc ça permet d'anticiper un peu ce que les utilisateurs auront vu pendant la keynote, ce que le grand public suit. Déjà eux vont se projeter sur leurs usages au quotidien. Et derrière ça permet d'aller directement dans une réponse au plus juste, on va dire. Au plus juste. Parfois, ça fait flop, mais bon, après, c'est le jeu aussi.
Et on le voit sur Twitter, la semaine de la VDC, c'est une semaine de plein bouillonnement, d'effervescence, où tu as les développeurs qui expérimentent les nouveautés le plus rapidement possible. C'est toujours bouillonnant.
Ouais. Ouais. Et chez nous, pour ma génération, Stéphane, c'est aussi... C'est aussi de la folie, quoi, pour nos sites, quoi.
c'est aussi de la folie, oui. Toute l'équipe est mobilisée, évidemment, pour le keynote inaugural, donc avec le live sur le keynote.fr. Et puis après, il y a toujours donc les bêtas qui tombent. Et puis après, c'est une semaine, même plus qu'une semaine, de folie où il faut analyser les nouveautés, les présenter, contacter les développeurs pour comprendre, pour avoir leur avis, pour comprendre les détails techniques. C'est plus d'une semaine vraiment intense où s'entrechoque vraiment toutes les nouveautés. Alors faut essayer on essaie toujours de trier, de prioriser traiter ce qui est le plus important en premier.
Donc tvOS.
TVOS, c'est pas mal parce que généralement en un article c'est plié. Tandis que iOS, voilà, il faut, je sais pas, je pourrais pas dire le nom, mais les nouveautés sont tellement nombreuses que il y a des dizaines d'articles. Ouais. TVOS, voilà, en un article, tu sais que c'est plié. Ouais. Donc TVOS, c'est sympa pour ça. Ouais.
Alors, il y a pour l'édition 2022 une petite partie en présentiel avec cette journée spéciale qui va rassembler des développeurs et des étudiants à l'Apple Park pour suivre le keynote. Jusqu'à présent, Apple n'a pas eu trop à se plaindre de ces événements en version virtuelle, mais on sent que Apple a aussi envie de renouer avec les prises en main juste après les keynotes. Stéphane, ça va être important de voir comment ça se passe, ce retour modeste en présentiel, et surtout, ça va nous donner une idée pour savoir si Apple a l'intention de renouer rapidement avec des présentations plus traditionnelles.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a bah, comme Apple le montre là, en invitant quelques développeurs, quand même une intention de faire revenir du public. D'ailleurs, Google a adopté la même approche pour la Google I/O. Le keynote de début se passera devant, se passera en public, et puis après tout le reste sera en ligne. Donc on a quand même, on voit quand même que les grandes entreprises veulent faire un peu revenir de la chaleur humaine. Si on peut dire, dans leurs événements, même si les formules en ligne sont très appréciées par les développeurs, parce que c'est bien carré, c'est accessible à tous, c'est gratuit aussi. Mais il manque cette liesse populaire aux événements, que ce soit à la WWDC ou même aux présentations de produits. Ça manque un peu. Et puis là, oui, c'est vrai que la situation encore assez incertaine, la situation sanitaire incertaine a fait que Apple et Google et puis toutes les grosses autres entreprises préfèrent encore la jouer prudent et puis faire des événements en ligne.
La WWDC, ça va être une grosse semaine, comme on l'a dit, pour les développeurs et pour Mac Génération aussi. Mais finalement, est-ce qu'Apple n'aurait pas plutôt intérêt à dispatcher les annonces tout au long de l'année? Surtout que les nouveautés de la WWDC n'apparaissent pas forcément avec les versions finales des OS à l'automne. Ça a été le cas, par exemple, pour Universal Control entre les Mac et l'iPad, disponible avec des mois de retard, mais peut-être que ce format d'événement annuel avec plein d'annonces dans tous les sens, ça reste important pour toi et pour les développeurs, Florent.
Ouais, c'est vrai que c'est vrai que du coup, c'est un événement où même si on est en ligne, quand même, on se retrouve. Et ça, c'est pas mal. Ça réactive la communauté, ça donne un coup de fouet un peu. On sait qu'à cette période de l'année, on va casser la routine. Après, c'est vrai que les tech talks qu'on avait il y a bien longtemps, c'était vraiment sympa. On avait des tech talks un peu partout, sur tous les continents. Je me rappelle, en 2010, j'étais allé à Londres. C'était super. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout le budget pour aller aux États-Unis. Ça m'a coûté un billet de train, et puis voilà. Ouais. Et l'air de rien, c'était important. C'était vraiment important. Ça m'a permis de découvrir la communauté pour la première fois, et ainsi de suite. Donc ouais, c'était les tech talks, c'était bien. Mais la Dub Dub, c'est quand même un level au-dessus, et c'est compréhensible qu'on puisse pas le faire à tout bout de champ, quoi. Ouais. Même en tant que développeur, quand même tu te prends ta semaine, c'est pas mal. Si on prend les nouveautés qui arrivent un peu plus tard, elles arrivent plus tard, mais quand même on a accès aux outils en tant que développeur. Et même si ça arrive pas même s'il y a un délai, on va dire, c'est pas spécialement gênant. On a déjà pu s'approprier la connaissance avant. Ouais. Le format est intéressant comme ça.
Ouais. Stéphane, est-ce que ça a toujours du sens, la WWDC, alors qu'on sait qu'Apple n'arrive pas à respecter sa feuille de route?
Oui, parce que ça donne un point de départ. Quand tu dis qu'elle n'arrive pas à respecter sa feuille de route, c'est que effectivement, on a l'habitude maintenant de voir des fonctions décalées. Par exemple, SharePlay, qui n'est pas arrivé 15.0, mais 15.1, si je me souviens bien. Et puis d'autres fonctions qui arrivent encore plus tard. C'est vrai que Apple, parfois, pourrait mieux communiquer sur la disponibilité de certaines fonctions. Tu sens que parfois même, enfin, c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à caler certains trucs. Le commande universelle qui est arrivé un peu tard là et qui est toujours en bêta. Mais c'est la WWDC reste centrale. C'est une semaine, on va dire, sacralisée où, comme l'a dit Florent, les développeurs prennent leur semaine, savent qu'ils vont pendant une semaine entière faire le plein de nouveautés, regarder des vidéos jour et nuit, et puis s'informer sur les évolutions d'Apple. Donc c'est un événement qui existe aussi depuis, j'ai plus la date exacte, mais des dizaines d'années, donc c'est pas prêt de disparaître.
Eh bien, merci à vous deux d'avoir participé à ce nouvel épisode de Kernel Panic. Alors évidemment, la WWDC, on va s'en reparler, et beaucoup, dans les prochaines semaines. Salut Florent, on se reparle très vite de tout ça.
Salut Mickaël.
Salut Stéphane, et tout de suite sur MacG.
Salut Mickaël, salut à tous.
Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour de futures aventures.